Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission Regard Croisé avec Arlette Farah et
Fulgence Blas.
Mais oui, Fulgence Blas est là avec nous, oui, oui.
Arlette est là avec nous, alors allez, on est parti. Arlette.
Comment vas-tu, Fulgence?
Je vais bien, merci. Et toi, avec le soleil qu'on a aujourd'hui là?
J'aime ça parce que t'as vraiment les yeux en l'air. Ça veut dire que toi tu regardes le soleil, mais la neige et la boue et tu ne vois pas.
Je ne veux plus voir ça.
C'est bien, c'est bien. C'est une façon positive de regarder les choses. Fais surtout attention de ne pas tomber. Par contre,
je vais prendre de la vitamine D. Voilà, c'est parti. Alors première partie de l'émission, qu'est-ce que tu nous as apporté?
Première partie de l'émission, on va parler des ondes Martenot parce que dans le cadre de la série des concerts-conférences qui sont organisés par la salle Bourgie. On va recevoir Estelle Lemire, qui est une grande connaisseuse des ondes Martenot, donc depuis des années. Et on va en parler pour expliquer ce que c'est. Moi, j'ai eu la chance de voir cet appareil et même de l'entendre face à moi. Mais on va en parler. Oui, chanceuse, je le considère aussi comme ça.
Non, j'ai pas dit que je suis jaloux, mais je suis...
Et après,
en deuxième partie de l'émission, on va recevoir une poète... Catherine Larivin qui va nous parler de son deuxième recueil sur le dos d'un cheval fou, J'apprivoiserai la nuit.
J'aime tellement ce titre, j'ai rien lu d'elle et puis on va en parler avec elle. Mais alors, rien que le titre déjà, sur le dos d'un cheval fou, J'apprivoiserai la nuit.
Ça accroche.
Oh oui. Et j'ai vu d'ailleurs qu'au dos du livre, si tu permets, elle a écrit quelque chose qui m'a touchée aussi.
Ah, tu veux lire ça?
Juste léger, oui.
Ah ouais, je te laisse lire. Vas-y. Ça.
Parce que à l'arrière, elle met... C'est en épousant le mauvais temps que l'on regagne le rivage. Et alors ça, je trouve ça magnifique. Chacun l'interprète à sa manière qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment excellent.
Oui, elle sera avec nous à la deuxième partie de l'émission.
Alors, avant de partir en musique, un petit rappel. Malheureusement parti trop tôt, Tonton David nous a quittés. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien Tonton David, mais moi en France, dans les années 90, j'étais complètement fan. Et j'étais fan, bien sûr, de la fameuse chanson « Chacun sa route, chacun son chemin » qu'on a tellement fredonné, d'autant plus que c'était la musique phare du fameux film « Un Indien dans la ville ». Qui vous dira peut-être un petit peu plus avec entre autres Thierry Lhermitte, un film absolument
pour ceux qui ont pu voir
très,
ça,
tellement drôle, mais tellement vraiment beau quoi, qui était bien. Et on avait donc cette musique, donc déjà c'est un air entraînant, déjà on avait plaisir à l'entendre. Donc de son vrai nom, il s'appelait David Gramont et David, on l'a toujours appelé Tonton David avec ses dreads. J'aimais beaucoup. C'était un chanteur français de reggae qui était né en 67, ce qui veut dire qu'il n'est pas très vieux, il est parti à une cinquantaine d'années. Et donc, il était connu donc, pour ce titre-là, surtout. Et puis, il était né à La Réunion. Tu connais, toi, la Réunion?
Je ne suis jamais... Oui, je sais où c'est, La
Mais
Réunion.
Mais tu n'y es jamais allé.
À La Réunion, attention, c'est en Afrique.
Ma question était, est-ce que tu es déjà allé à La Réunion?
Non, jamais. Donc, j'aimerais bien. L'opportunité ne s'est pas encore présentée.
Oui.
Peut-être que ça va venir.
On ne sait jamais. Alors justement, en hommage à Tonton David, et pour un souvenir qui a fait plaisir à beaucoup d'entre nous, y compris moi en tout cas, on écoute « Chacun sa route, chacun son chemin ». Tonton David.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levez à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun
chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, et ça donne, passe le message à ton voisin, et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, et ça donne. Passe le message à ton voisin, et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, et ça donne. Passe le message à ton voisin, et ça donne. Passe le message à ton voisin.
Alors maintenant, bien, on va parler, on va démarrer la demi-heure en parlant des ondes de Marteneau, la petite histoire d'une grande invention, et pas avec n'importe qui, avec une très reconnue ondiste. C'est très joli comme nom, ondiste. Estelle Lemire, bonjour.
Bonjour Arlette.
Bonjour Estelle Lemire.
Vous êtes spécialiste des ondes Marteneau depuis 25 ans. Waouh.
De même, depuis plus longtemps encore, j'ai eu un premier prix au Conservatoire
oui,
de Montréal
c'est ce que j'ai
en 87, en 88. Donc il y a plus de 30 ans.
Alors, je vous l'annonce peut-être, mais j'ai eu l'occasion de voir, d'entendre, ici, dans le studio, il y a quelques ans en arrière, voir jouer ce que c'était les ondes Marteneau et voir à quel point on pouvait associer les mains et à quel point cet instrument pouvait aussi ressembler à certains instants à une voix humaine. Vous allez nous en parler un petit peu plus, mais je vous laisse la parole là-dessus.
Oui, c'est vrai, c'était l'intention de Maurice Marteneau. L'instrument, il se présente comme un clavier. C'est d'abord un clavier qui a 7 octaves, donc l'étendue, le registre d'un piano. Mais en plus d'avoir ce clavier-là qui est monodique et qui est un clavier expressif qui bouge, sur lequel on peut faire du vibrato, il y a un deuxième mode de jeu qui est, lui, le jeu au ruban. Et ça, c'est comme ou le jeu à la bague. On met une bague dans notre index et on déplace une corde latéralement et c'est la référence que vous avez sans doute. C'est ce qui ressemble le plus à la voix humaine ou à un instrument à cordes. C'est un mélange des deux, si on veut. Donc, on peut glisser ou faire des mélodies lentes sur le ruban ou le jeu à la bague. Évidemment, c'est pas tout ce qu'on a. On a bien sûr une variété de timbres électroniques et on a une série de diffuseurs acoustiques. On a des résonateurs qui enjolivent le timbre. Puis ce qu'on recherche, ce que Marteneau recherchait, c'était d'avoir un contact, de fabriquer un instrument qui nous permettait d'avoir un contact sensible avec l'instrument, avec le son électrique. Donc, on peut mouler le son électrique, on peut le travailler de la même manière qu'un chanteur le ferait ou qu'un instrumentiste à cordes le ferait.
C'est un
instrument sensible qui répond à la sensorialité de l'interprète.
Alors, c'est un instrument qui a été inventé en 1928, c'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Exactement, oui.
Et c'est vraiment un des premiers instruments électroniques. Mais par contre, ce que je ne savais pas et que j'ai appris le jour où je l'ai vu jouer, c'est qu'on s'en sert aussi dans certaines musiques de films pour être à l'arrière d'une musique ou pour être mêlé à la musique thème.
Oui, il y a eu énormément de musique de scène écrite pour le Marteneau dans les premières années, dans les années 30, 40, beaucoup de musique de scène. On suivit beaucoup de musique de film et encore aujourd'hui, parfois, on enregistre des thèmes pour que les ondes soient intégrées à une orchestration de musique de film. Ce qui fait le forté du Marteneau, par contre, c'est peut-être son répertoire classique. On a développé des centaines d'œuvres pour l'instrument lui-même, qu'il soit en soliste, en musique de chambre ou avec orchestre. Donc, c'est un instrument qu'on joue encore aujourd'hui parce qu'il y a des œuvres classiques écrites pour les ondes Martenot.
Alors là, j'ai envie de vous dire une question de base qu'on a dû vous poser mille et mille fois, mais qu'est-ce qui vous a interpellé vers cette musique-là?
Ben, moi, c'est le modernisme de l'instrument, puis c'est la musique de l'époque. Écoutez, moi, j'avais entendu la musique de Tristan Muraille, et c'est ça qui m'a vraiment conduite vers cet instrument-là, c'est l'aspect ultra moderne. Évidemment, il y a l'aspect plus néoclassique, la musique populaire, les thèmes, le lyrisme de l'instrument. Moi, ça a été l'opposé, ça a été sa capacité à faire la musique ultra moderne. D'accord. Particulièrement la musique de Tristan Muraille, un compositeur français là, qui avait étudié avec Messiaen et qui est encore vivant, qui était lui-même ondiste, donc qui écrit vraiment exceptionnellement bien pour l'instrument, mais d'une manière extrêmement moderne, très contemporaine. C'est ça qui m'a attirée vers l'instrument.
Mais vous-même, vous êtes compositrice.
Oui, c'est vrai. J'ai écrit aussi quelques œuvres pour les ondes, mais j'écris pour toutes sortes de formations, comme la plupart des compositeurs d'allégeance classique.
Oui, Estelle?
Oui.
Une question rapide. Pourquoi est-ce que cet instrument n'a pas pu s'imposer comme les autres, comme le piano, comme la guitare et autres?
Ben, premièrement, c'est un instrument beaucoup plus jeune, qui a seulement 90 ans d'existence, donc il n'a pas encore eu le temps de s'imposer, mais il s'est quand même imposé dans la panoplie d'instruments électroniques. Il a quand même survécu 90 ans, on pourrait le dire comme ça, parce que, évidemment, l'évolution technologique fait que les instruments vont et viennent très rapidement, mais celui-là, il reste. Puis pourquoi il reste? Ben, c'est parce qu'on a écrit pour l'instrument, puis ces œuvres-là, ben, on les joue encore. Il y a un grand exemple de ça, c'est la Tourangelie, la symphonie de Messiaen. Ben, on la joue, cette symphonie-là, dans tous les orchestres à travers le monde régulièrement. Je la jouais même juste avant la pandémie, en novembre, je crois, en novembre 2019, vraiment très peu de temps avant, en Ohio. Donc, on se promène pour jouer ces grandes œuvres-là qui ont été écrites pour l'instrument. C'est parce qu'il y a un répertoire qui s'est développé. Parce qu'on peut dire que le 20e siècle a vu passer beaucoup d'instruments électroniques, mais le Martenot est demeuré. Parce qu'il offre aussi tellement d'expressivité.
C'est ça.
De capacité d'expression à l'interprète.
Mmh. OK.
Et on vous appelle ondiste. C'est pas joli, oui. Ça, comme
j'aime
nom?
J'aime ça, c'est beau.
Ah, c'est beau!
Ondiste.
C'est vrai.
Non, c'est poétique.
Oui, c'est vrai. Hein, toi qui aimes la poésie.
Oui.
Ça fait penser à comme une vague, comme la mer, vous savez.
Ondiste.
C'est vrai.
Non, c'est très joli, en fait. Ça a toujours existé ou c'est un terme qui est arrivé plus tard?
Je ne saurais pas.
Vous ne saurez pas. Je vous pose une colle. Hein.
Oui, une colle, j'avoue. Bon. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que de toute façon, on dit clarinettiste, flûtiste. Oui. C'est assez normal qu'on en vienne à ondiste.
Oui. Mais on aurait pu se servir du nom de Martenot aussi, mais c'est beaucoup plus joli de dire ondiste.
C'est
en
vrai.
Tout cas, on va le dire comme ça. On va écouter un court extrait de ce que ça représente. Et puis ensuite, vous allez nous parler justement de ces concerts-conférences qui sont organisés par la Salle Bourgie.
Oui.
Et dont on va en voir une bientôt avec vous, qui expliquait qu'est-ce que c'est les ondes Martenot et qui de mieux que vous pour le faire depuis le temps que vous baignez là-dedans. On va dire ça comme ça. Donc on écoute ce court extrait, on en reparle tout de suite après.
D'accord. Thank you.
Estelle Lemire.
Oui.
Quand on entend ça, quand ça débute en tout cas, à l'époque où je n'avais pas connaissance que cet instrument-là existait, j'aurais pensé à du violon. Un très beau mouvement de violon quand j'entendais ce son-là. Et après, on voit bien qu'il devient très particulier et qu'il n'existe nulle part ailleurs.
Ouais, j'aurais beaucoup plus pensé à un synthétiseur.
Ouais. Moi, ça me fait... ça, quand ça a débuté, là, moi, je voyais presque un violoniste. Comme quoi, chacun a son image de cet instrument, n'est-ce pas?
Oui, mais je pense qu'on a cette impression-là, justement, parce que c'est un son d'abord électronique. Oui, on pense à un synthétiseur, mais comme il est expressif, ça nous renvoie aux instruments acoustiques.
Mmh.
Donc, je pense que c'est ça que Martenu a réussi. Il a réussi à nous donner du son électrique au départ, puis électronique par la suite, qu'on pouvait mouler. Comme on met de l'expression dans une voix, comme on met de l'expression sur une corde de violon. Je pense que c'est ça la grande richesse du Martenu.
Eh bien, c'est tant mieux. En tout cas, c'était une belle invention. Et pour moi, ça a été une belle découverte. Je ne savais pas que ça existait avant, mais ça a été une belle découverte. Tu voulais dire quelque chose,
Estelle, si je me lève demain, je dis, je vais m'acheter cet instrument-là. Je vais chez Steve Music. Là, est-ce que je peux l'avoir?
Non, on ne peut pas l'avoir chez Steve Music. Sauf que quand même, on peut l'acheter au Canada. Il y a un nouvel instrument qui est fabriqué au Canada. Il est fabriqué en Alberta par un entrepreneur. Mais on peut s'en procurer au Canada, oui.
Okay.
Il y a plusieurs modèles qui existent. Il y a un nouveau modèle français qui réplique complètement les ondes Martenu. Il y a ce modèle-là, Ondea, qu'on peut acheter au Canada, qui est d'une facture magnifique. Et puis, il y a d'autres tentatives d'instruments qui existent, dont un petit instrument au Japon pour justement des gens qui voudraient s'initier aux ondes Martenu.
Merci.
C'est excellent. Alors, parlons maintenant des concerts-conférences organisés à la salle Bourgie. Comment ça va se passer? Expliquez-nous un petit peu, parce que pandémie oblige, évidemment, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus aller entendre le concert en direct.
En effet, donc, le concert-conférence a lieu durant environ une heure et ça a lieu en direct. C'est filmé en direct samedi après-midi à 2h30, mais c'est en diffusion web par la suite pendant plusieurs jours. Et c'est donné devant une salle vide, comme vous pouvez l'imaginer.
Ben oui, c'est ça.
Et puis ce que je fais, je donne en alternance, j'alterne des pièces musicales avec des explications sur l'histoire de l'instrument, sur une démonstration de comment fonctionne l'instrument. Je parle des liens avec le Québec, avec le répertoire. Et puis, on fait tout ça dans une heure. Je fais ça avec un pianiste qui s'appelle Daniel Agnès, qui lui-même a fait aussi, après son doctorat en piano, une année de perfectionnement en ondes Martenu. Mais Daniel va être là pour m'accompagner au piano, par contre, mais va m'aider dans la démonstration de l'instrument. Donc, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. J'ai choisi du répertoire du 20e siècle parce que c'est le répertoire, bien entendu, qu'on a développé depuis 90 ans, mais je commence avec une transcription d'une courte pièce de Debussy. Ensuite, je fais du répertoire original, des choses écrites directement par des compositeurs pour ondes et pianos.
Très bien. Alors, pourquoi dit-on que les ondes Martenu occupent une place unique au Québec? Plutôt que le Québec occupe une place dans l'histoire des ondes Martenu, pardon. C'est plutôt l'inverse.
Ben, écoutez, c'est parce que on a développé l'enseignement du Martenu au Québec. Il y a eu une grande filière, une grande filiation qui s'est produite dans les années 50, 60, 70, 80 avec le Conservatoire de Paris. Les musiciens allaient beaucoup se perfectionner au Conservatoire de Paris. Et c'est là que les ondes s'enseignaient. Il y a des gens qui sont revenus avec des instruments ici et il y a une classe d'ondes qui s'est ouverte, la seule en Amérique du Nord, la seule en dehors des conservatoires français.
D'accord.
C'est pour ça qu'il y a vraiment une filiation très particulière. À partir de ce moment-là, il y a des ondistes qui sont nés et il y a beaucoup de répertoires d'ici qui s'est développé pour l'instrument.
D'accord, je comprends un petit peu mieux. Et vous, vous faites des tournées sur cette musique?
Oui, ben je joue avec des orchestres, généralement de la musique contemporaine ou surtout les grandes œuvres du répertoire comme la Tourangelilla Symphonie dont on parlait tantôt ou Jeanne d'Arc au bûcher d'Arthur Honegger, ce genre d'œuvres de répertoire là. Ça m'amène à aller aux États-Unis, partout ailleurs au Canada, oui.
Ben pour le moment, vous ne pouvez pas voyager, mais bon...
Non, depuis un an, j'ai été confinée. Alors,
pandémie oblige.
Ça part...
Oui, exactement, et puis ben, c'est un premier concert pour moi depuis un an, ce retour-là à la salle Bourget, et puis ben, c'est un concert devant une salle vide, alors oui. J'espère qu'il y aura des gens quand même de l'autre côté de l'écran pour voir de quoi ont l'air les ondes Martenot.
Sûrement. Vous avez aussi fait de la musique pour un film, est-ce que j'ai bien lu, pour Paul à Québec?
C'est-à-dire que dans, il y a un compositeur qui a intégré les ondes dans la musique de Paul à Québec, oui.
D'accord. Alors, j'ai vu le film et j'ai pas saisi. Faut avoir l'oreille pour avoir la nuance quand on entend les ondes Martenot.
Oui, avec les montages dans les films, c'est pas évident. Hein.
Oui, c'est ça. Puis c'est peut-être pas... Peut-être qu'on se laisse bercer par la musique sans en écouter les détails.
Sans analyser, mais
c'est
oui,
ça aussi. Voilà.
Par le film, oui.
Donc,
c'était très joli.
Oui. Votre lien avec le Conservatoire de musique à Montréal?
Le lien est que j'ai pris la tête de la... Je suis devenue titulaire de la classe Don Martenot depuis 2015.
Félicitations.
La classe avait été fermée très longtemps.
Bravo, félicitations.
On a réussi à la réouvrir, oui. Alors, je suis très contente, oui. On a une élève en ce moment qui va jouer justement avec l'orchestre le concerto de Jacques Etu qui avait été écrit pour Jean Laurendeau, qui avait ouvert la classe à l'époque. Et puis, elle va même jouer à la fin de son récital de sortie la première œuvre concertante pour Ronde Martenot qui avait été écrite l'année de sortie des Ronde Martenot, l'année du dévoilement de l'instrument. Donc, c'est une très belle élève qui va sortir cette année, vraiment magnifique, qui peut faire deux concertos en même temps.
Alors, la date et l'endroit où on peut vous écouter?
Eh bien, samedi, à la salle Bourget, mais...
C'est ce samedi,
web.
Donc?
Samedi, 2h30, mais...
À quelle heure?
Possible. À 2h30,
d'accord.
Mais c'est possible en rediffusion.
OK, jusqu'au 6 mars, c'est ça?
C'est ça, oui. Oui.
J'ai de la mémoire là-dessus. En tout cas, j'ai été très contente. Enfin, nous avons été très contents de faire votre connaissance
et d'entendre.
De ce bel instrument.
Oui, j'étais toute contente de vous recevoir puisque justement, j'avais eu l'occasion de le voir et de faire connaissance avec il y a au moins 2 ans. Donc, c'était une bonne raison de vous recevoir et de vous entendre en parler, en tout cas.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous deux. Au revoir.
Merci. Bonne fin de journée à vous également. Au revoir.
Au revoir.
Je connais mon affaire, moi. Je corrige les gens. Je suis des bourreaux jusqu'aux enfants rois, le prophète de mon temps. Je me tiens à un jet de pierre des sorcières qui couchent avec Satan. À un crachat des beaux crosseurs en complet noir et blanc. Je me mois entre les erreurs des autres. Je me mois et multiplie mes apôtres. Je vous vois de mon salon, je tire sur tout ce qui bouge. Je vois la vie. Des bombes du bout des doigts sans que personne ne me nomme.
se fâche jamais ne valent rien. Je mets moi entre deux résurrections. Je mets moi et multiplie les poissons. Je vous vois de mon salon, je tire sur tout ce qui bouge. Je vois la vie.
C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un artiste dont je suis fan, Louis-Jean Cormier. Je me moi. Je vous aime beaucoup, Louis-Jean Cormier.
Je me moi. Comme si on dirait je, alors, me, je me meurs. Comme
dans
l'autre.
La prochaine demi-heure, eh bien, c'était une déclaration que j'essayais de rendre un petit peu poétique, puisque dans la prochaine demi-heure, on va parler poète.
On va parler de poésie.
Et il en est tellement content. Là, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Oh, la banane.
Fulgence.
Allez, à tout de suite.
Alors, restez avec nous. On parle poésie dans un instant et de la belle poésie, croyez-moi. À tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés.
One heart.
What about the let's get together?
Bob Marley and the Wailers, One Love, people get ready. Wow, Alette, comme je disais, ça vieillit jamais cette pièce-là.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'était encore très beau à entendre.
Ouais. On a notre invité déjà au téléphone avec nous, Catherine Arrivin, qui va nous parler de son nouveau recueil sur le dos d'un cheval fou, J'apprivoiserai la nuit.
Quel beau titre.
Oui, voilà, c'est quelque chose qui... Merci d'ailleurs, j'ai ma copie que je tiens ici comme un bébé. Alors, c'est le bébé de Catherine. Catherine l'arrivée, pour ceux qui ne savent pas, avant que je lui dise bonjour, c'est un peu d'Afrique, c'est un peu d'Europe, c'est un peu d'Amérique latine et un peu du Québec.
Beau mélange.
Ouais. Ouais. Autodictateur, c'est une touche à tout, comme je te disais. Elle explore indifféremment le destin et la peinture. Le dessin et la peinture en passant par la réalisation documentaire, montage vidéo, photographie, écriture. Là. Et le point clé aujourd'hui, c'est l'écriture. C'est pour dire qu'elle touche à beaucoup de choses. Ce qui fait que donc, la poésie pour elle, sans prétention, elle ne domine vraiment aucun domaine artistique. Elle a juste besoin de créer. C'est en elle. Tout l'intéresse. Elle n'a rien à prouver. Juste des choses à dire. Bonjour Catherine Larive.
Bonjour Catherine.
Bonjour vous.
Comment vas-tu?
Ah, mais je vais très bien. Bonjour.
Alors, j'ai ton joli...
Il est beau ce titre.
Arlette a lu ça sur le dos des chevals fous, j'apprivoiserai la nuit. Elle dit, mais waouh, c'est bien joli ce titre. Alors, ce nouveau bébé qui vient à peine de sortir, comment tu l'apprivoises, toi, le jour?
Ben, ma foi, je fais ce que je peux avec. Hein. C'est assez un peu dit que la poésie, hein, c'est toujours difficile de lâcher dans la nature, c'est quelque chose d'aussi personnel, mais bon, ça fait partie de la vie. Hein.
Oui.
Mais sinon, ça va, la vie est bonne.
Oui. Et j'oublie, il ne faut pas que j'oublie le nom de la maison d'édition, c'est les productions du Grand Large qui ont édité ce beau recueil. Elle va nourrir un peu plus tard. Parle-moi un peu de ton parcours. Comment tu es venu à la plume, toi?
Écoute, moi j'ai commencé à écrire très tôt, en fait c'est à cause de mes parents qui m'obligeaient à faire un repos pendant les vacances, après le déjeuner.
Ah d'accord.
Voilà. J'espère qu'ils ne nous écoutent
pas.
Et
donc j'étais dans ma chambre et puis je savais pas trop quoi faire, alors je dessinais, j'écrivais des histoires, et puis après bon à l'adolescence je me suis mis à la poésie, puis au Québec j'ai découvert Jeannot Saint-Denis et la place aux poètes. Et ça a été un déclic là.
C'était la belle époque. Hein.
Hein?
Tu as connu cette belle époque de Jeannot Saint-Denis?
Ah oui, une grande époque de la poésie à Montréal.
Oui. Dites-moi si je peux me permettre de vous demander, est-ce que c'est vous qui avez peint le tableau qui est sur la première page?
Oui, c'est moi, oui.
Ah, oui. Bravo.
C'est une touche à tout. Je ne sais pas ce que Catherine fait. Bah oui, et que Jeannot Saint-Denis, pour ceux qui ne savent pas, vraiment c'est celle qui a commencé même les soirées de, et comme tu le dis très bien dans ta description biographique, tu te réclames haut et fort une enfant de la place au poète de Jeannot Saint-Denis, où elle a fait ses premières lectures, où tu as fait tes premières lectures et a découvert les innombrables richesses des voix de la poésie. Donc c'est...
Ouais, c'est ça. Jeannot, elle avait cet immense talent, non seulement d'écrivaine, parce qu'elle avait une très belle plume, et c'est une animatrice incroyable, mais aussi elle avait à cœur de donner une voix aux poètes, et il y a un nombre incalculable de poètes du Québec qui ont fait leurs premières armes chez elle. Mmh. C'était un espèce de creuset de création tous les mercredis. Moi, j'ai organisé mes gardes partagées pour mon fils en fonction de la place aux poètes pour être libre tous les mercredis.
Pour aller aux soirées de poésie de Jeannot Saint-Denis. Waouh!
C'était le rendez-vous à ne pas manquer.
À ne pas manquer, en tout cas.
Pour les amoureux de la poésie, quoi.
Mmh. Ah ben bah là, Fulgence, il est bien placé, hein, on en sait quelque chose.
On revient sur le dos d'un cheval fou, j'improviserai la nuit. Comment le public a accueilli ça, depuis qu'il est sorti?
Bah, écoute, ma foi, je ne sais pas. Tu sais, il est sorti juste en pleine pandémie.
Oui.
Moi, j'avais à cœur de le publier. C'est ma petite maison d'édition à moi. J'ai publié un premier recueil en France.
Oui.
Dans une petite maison d'édition. Et,
pourquoi tu appelles ça une petite maison d'édition? C'est une maison d'édition.
Mon premier recueil a été publié par une toute petite maison d'édition parisienne.
Oui.
Et puis, ce deuxième recueil, je voulais le faire au Québec, mais je trouvais pas d'éditeur. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un versant, j'ai une petite compagnie. Puis c'est mon premier. Là, je travaille sur le manuscrit de quelqu'un d'autre. Je vais commencer à publier des livres.
Oui. Ah, ça veut dire que demain, si j'ai un manuscrit, ou bien si Arlette a un manuscrit, on peut t'envoyer, tu vas nous publier.
Absolument, mais je fais aucune distribution.
Si c'est bien.
Je fais œuvre utile.
Ah, d'accord.
Je fais gratuitement la correction, la mise en page et tout ça. Je finance l'impression d'une première série de recueils. Je vais jusqu'au lancement, je produis le numéro ISBN, je dépose à la bibliothèque. Et puis après, je vends les exemplaires nécessaires à rentabiliser les coûts d'impression. Puis après, je libère de tout droit et je donne pour $1 symbolique à l'auteur toute la balance des livres publiés, des livres imprimés. Puis il en fait ce qu'il veut, ça lui appartient.
C'est très généreux.
Ouais.
C'est une belle idée, c'est une vraie aide.
Catherine.
Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment une maison d'édition, en fait. C'est presque un service bénévole
aux artistes.
Ouais, ceux qui n'ont pas la chance de se faire accepter ailleurs. Voilà. Alors, rapidement, avant de passer, faire une petite pause publicitaire, musicale, pas publicitaire, musicale. La poésie, que signifie la poésie pour toi?
Qu'est-ce que ça signifie? Comment te dirais-je, c'est l'ouverture sur, c'est le LSD de la création.
Oui.
Il nous emmène dans d'autres univers.
Oui.
C'est une manière de représenter le monde d'une autre façon, quoi.
Oui.
C'est moins grave que le vrai.
Souvent, mais des fois c'est pire. Hein. Des fois c'est plus dramatique. Entre autres, mon écriture à moi est assez noire, en fait.
D'accord.
Mais des fois c'est pire que la réalité, mais c'est une manière d'exprimer une vision. Hein.
Justement, ça en viendra à une question que j'aurais aimé vous poser, mais vous aurez le temps de me répondre après la pause musicale.
Oui.
C'est « Sur le dos d'un cheval fou, j'apprivoiserai la nuit ». Qu'est-ce que ça nous raconte et qu'est-ce que vous avez voulu nous offrir à travers ça? Mais ne répondez pas tout de suite. D'abord, on part en musique.
Après la pause musicale.
Je vous demanderai la réponse ensuite.
Après,
merci.
On va en musique avec Pierre-Hervé Goulet, peut-être. on est toujours...
Oui, j'allais dire Catherine Le Retour.
Ah, oui, oui, on est de retour, toujours avec notre invité, bien sûr, qui nous attend, qui attend la... On attend la...
J'attends la réponse
de la question,
à ma question.
De d'Arlette.
Catherine ?
Guerrière, le cheval fou, hein. Donc, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, forcément. Et donc, ben, je chevauche là-dessus, puis je me bats, quoi. À travers l'art, à travers la poésie, à travers le partage, à travers l'enthousiasme, à travers tous les outils qu'on peut avoir à portée de main pour apprivoiser les difficultés de la vie, les coups durs, pour aller toujours vers la lumière, quoi.
Alors, vous avez fini de l'écrire quand ?
Écoute, c'est par ordre chronologique, c'est un 10 ans, c'est ma quarantaine, en fait. Non, c'est ma cinquantaine.
D'accord.
C'est pas grave. Même à 50 ans, on est encore jeune.
Donc, ça commence au décès de mon père, et puis bon, c'est un cheminement à travers toute une série d'embûches et
de vécu.
Et de moments difficiles, et de moments de joie, et tout ça. Et donc, ben voilà, à un moment donné, je voulais boucler la boucle.
Je comprends.
Pour pouvoir passer une nouvelle étape. Et voilà, donc il y a 10 ans de poésie là-dedans, quoi.
Pour les prochains demi-siècles.
D'accord.
Voilà,
bah, en tout cas, j'ai bien aimé le titre. Et puis dans le fait de parler d'apprivoiser, j'y ai vu une lueur d'espoir au milieu de tout, au milieu de la nuit. Voilà.
Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est une manière de... De toute façon, c'est ma quête, hein.
Oui.
Trouver toujours, aller toujours, tendre toujours vers la lumière, puis vers l'espoir et vers l'optimisme malgré tout, malgré les difficultés de la vie. Et ça se reflète partout dans le recueil, en fait.
D'accord.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué quand je le parcourais.
Ouais, c'est ça.
Alors, avant de continuer avec d'autres petites questions, est-ce que tu pourras nous faire découvrir quelques poèmes un peu...
Bah écoute, je peux te lire, je sais pas trop, là, je vais essayer de...
Choisis ce que tu as envie de nous, ce que tu as envie de nous faire découvrir, Catherine.
Ouais, c'est ça. Écoute, je vais essayer avec, je vais commencer avec un rap, ça s'appelle le rap du mai, M-A-I-S.
Oui.
Okay.
Ah, oui.
Bon, on y va, bonne chance. C'est tabou, ça se dit pas, ça se fait pas, mais je te dis, moi je le crie. On voudrait tous être parfaits et pouvoir vivre en paix, mais il y a la frousse, il y a le rejet, il y a le devoir, il y a les mais encore, mais pourtant, et la mort, et le temps. J'en veux aux vieux qui déambulent de haut en bas, de ci, de là. Je sais que c'est con, que c'est ridicule, mais moi mon vieux, il est plus là. Puis je sais bien que j'ai l'air de rien, pas de sexapile, puis pas d'éclat. Et si je suis fier de mon jardin, des fois je suis bleu devant leur joie. C'est tabou, ça se dit pas, ça se fait pas. Mais je te dis, moi je le crie. On voudrait tous être parfaits et pouvoir vivre en paix. Mais il y a la frousse, il y a le rejet, il y a le devoir et il y a l'aimer. Mais pourtant, mais encore, et la mort et le temps. On me dit souvent que je suis généreuse et attentive et empathique. Je me demande quand même si c'est pour moi ou pour les autres que je fais tout ça. Puis je donne au monde, yoga, karma, c'est si facile, je manque de rien. Je donne seulement ce qui ne me sert pas, je me prive de rien pour faire du bien. C'est tabou, ça se dit pas, ça se fait pas. Mais je te dis, moi je le crie. On voudrait tous être parfaits et pouvoir vivre en paix, mais il y a la frousse, il y a le rejet, il y a le devoir et il y a les mais encore, mais pourtant, et la mort et le temps. On joue l'étoffe du qui sait tout. Oui, mais dans le fond, on meurt de trouille, on est inculte, on ignore tout. Peur de la douleur, de mourir tout seul. Et je pardonne tout, vite oublié. Mais je suis pas sûr que tout au fond, c'est pas pour mieux me faire gracier de mes propres erreurs qui font légion. C'est tabou, ça se dit pas, ça se fait pas. Mais je te dis, moi je le crie. On voudrait tous être parfaits et pouvoir vivre en paix. Mais il y a la frousse, il y a le rejet, il y a le devoir, il y a les mais pourtant, mais encore, et la mort et le temps. Puis je dis que j'ai le cœur multicolore, puis la planète en étendard. Mais trop souvent, je fais croire que je dors pour ne pas voir la misère noire. Et si j'évite les jugements, je me rends bien compte que je me méfie de ceux qui me sont trop différents, de tout ce qui brasse mon autarcie. On dirait bien un abrégé des 7 péchés du livre sacré, de ce qu'on dit derrière une grille, catimini pour la galerie. Mais je vous jure, je veux pas m'absoudre, seulement besoin de me révéler pour soulager mes propres foudres. Un peu de grand jour sur du papier. C'est tabou, ça se dit pas, ça se fait pas. Mais je te dis, moi je le crie. On voudrait tous être parfaits et pouvoir vivre en paix. Mais il y a la frousse, il y a le rejet, il y a le devoir et il y a les mais pourtant, mais encore, et ta mort, et le temps.
Wow.
Oh, Oh là là, bravo! Oh,
merci Catherine.
J'aimerais un texte, j'ai des idées comme ça de personnages à qui j'aimerais envoyer ce texte. de tous les mecs qui m'ont empêché de dire des choses et qui seraient criés de façon plus crue dans ce texte-là. Bravo, ça, merci.
Ça, c'est Catherine, ouais, c'est bien elle, ça. C'est, ouais. Je sais pas quoi dire. Voilà. Allez, vas-y.
Moi, ça m'a donné la pêche, c'est-à-dire, ça a comme dégonflé quelque chose chez moi en disant, ben oui, c'est vrai, quoi. J'aurais aussi envie de dire ça. Quand on est dans le trop politiquement correct, on est tous à ce niveau-là d'avoir des accès de colère, des envies de dire les choses, des envies de critiquer, de regarder, puis en même temps d'être bon, d'être gentil, d'être tendre. Ça, ouais. On a les deux faces d'une même pièce. Donc oui, merci pour ça, Catherine.
De rien.
Comment on peut se procurer ce recueil?
Écoute, faut le commander, en fait, faut m'écrire aux productions du Grand Large. Je peux donner mon courriel.
Oui.
Ou sinon, passer par vous. Mon courriel, ben, c'est Clarivain, C-L-A-R-I-V-A-I-N.
Oui.
@hotmail.com.
Hotmail.com, ok.
Et puis bon, c'est des commandes, et puis moi je poste.
Ok.
Je vais le mettre en certains points de distribution, là, quand je serai sortie de ma quarantaine. Je suis en quarantaine.
Ah, d'accord.
Mais dans 2 ou 3 librairies à Montréal. Mais pour l'instant, ben c'est ça. Pour l'instant, c'est par envoi postal.
J'ai bien envie, j'ai bien hâte de voir ça sur les étagères dans les librairies, hein, Catherine.
Merci. Merci,
Fulgence. Oh non, c'est un beau recueil. Il m'a fasciné. J'aime ce que, mais surtout le premier que tu m'avais donné à l'époque, je me rappelle bien. Quand j'ai commencé à lire ce deuxième, j'ai dit, mais elle est comme ça, elle est unique. Comme chaque écrivain, comme chaque artiste.
En tout cas, n'ayant pas lu le livre, je trouve que le choix du texte qui nous a été offert était excellent.
Ouais, c'est un cadeau.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Merci Arlette.
Voilà. Arlette, c'est hein? Cadeau. Oui, c'est ça Arlette, c'est ça.
À toi, tu ne t'es pas trompé. Moi, en tant que collègue, je me trompe quelquefois sur son poulain. Elle me reprend tout de suite.
Mais en tout cas,
on te dit merci beaucoup.
Bonne plume, belle plume. Et puis,
merci beaucoup à toi, Catherine.
Bon ressenti, en tout cas. Merci, hein, Catherine. Ça a été une belle...
De rien, merci à vous de m'avoir invité.
Une belle présentation, et puis je savais bien que sur un titre pareil qui me faisait rêver, il allait avoir un texte qui allait venir me toucher, et comme les synchronicités font partie de la vie,
c'est ce qu'elle a choisi.
Eh bien, c'est ce qu'elle a choisi. Voilà. Alors, merci pour ça.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
À
bientôt.
À bientôt, on se retrouve. Catherine, et puis bonne arrive. Continuation, c'est parce ça. Que c'est pas toujours facile non plus avec ce qui se passe de pouvoir produire et de pouvoir mettre en vente
son travail. Temps, quoi, voilà.
C'est toujours difficile comme ça, mais en tout cas, on dit bonne chance aussi pour le reste.
Merci
et
beaucoup,
puis
merci beaucoup.
Et puis la n'arrête pas d'écrire.
Voilà.
Allez,
merci
à bientôt.
À vous deux, hein, allez. Soin de vous.
Merci, au revoir.
Toi aussi. Bye bye.
Au revoir.
Ce ton, oulala, ne m'oblige pas à te donner de leçons. Oulala, oulala, je sais pas, c'est toi qui vois. Oulala, loin de moi, l'envie de salir mes doigts. Oulala, es-tu bien certain, plus sain d'avoir raison? Oulala, non, ne m'oblige pas à te demander pardon. Oulala, je peux pas cautionner ces allusions. Tenue.
Pirouette, oulala, c'est le titre de la pièce.
Ben ouais. J'aurais envie de dire, de reprendre ce titre et de dire oulala pour l'émission qu'on a eue. Autant j'ai envie de dire de ton côté pour apprendre les ondes de Martenot et autant de mon côté pour faire la connaissance de Catherine Larrivain et d'entendre ses poèmes et le style de ses poèmes. Donc ça a été une belle découverte pour chacun de nous deux, pour nos invités.
J'aimerais bien rencontrer un ondiste ou une ondiste, ou bien voir au moins cet instrument en face de moi. C'est parce que si je vais...
Samedi.
Oui.
Puisque c'est le puis après on peut la voir parce que c'est le spectacle qui est oui, dans le cadre de la série Concert Confirmé.
Je vais me donner du temps. Du temps pour voir ce spectacle-là.
C'est pas que concert, hein, c'est aussi une conférence.
Elle
raconte les ondes Martenot, ce qu'on peut vouloir en dire.
Conseil-conférence.
Voilà.
J'ai failli dire le contraire, conférence-conseil. Non, c'est conseil-conférence.
C'est organisé par la salle Bourgie, et heureusement.
J'ai beaucoup aimé le son que j'ai entendu.
Ça fait partie de ces belles idées que tout le monde, tous les artistes prennent pour pouvoir rester en lien avec leur public. Et puis on peut leur dire merci pour ça.
En fait, ça me fait penser à un nouvel instrument qui est sur le marché depuis quelques années. Ça se fait seulement aux États-Unis. Il y a un seul fabricant, ça s'appelle Arpeggi. Ça se joue comme comme du piano, tu peux jouer de la guitare là-dessus, tu peux jouer du piano là-dessus. Mais c'est fou. Je suis en train d'économiser pour acheter.
Et un jour, tu viendras nous faire une présentation.
Ah oui. Allez, on va dire...
Chiche. Tu vas chanter aussi par-dessus?
Non, je vais te faire écouter seulement les doigts qui vont travailler là-dessus.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités. Merci Maurice Bolduc pour la musique.
Merci à nos deux invités, Catherine Larrivain et Estelle
Lemire. Fulgence, on se voit demain.
On se voit demain. Ouais.
Alors, bye bye. À demain.
Ciao.
Au revoir.